Point Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 14 mars 2016. Au sommaire ce soir...
Attaque terroriste en Côte d'Ivoire, bilan révisé à la hausse.
Au total de ces attaques qui ont occasionné la mort de 7 civils et 3 terroristes.
Le président Alassane Ouattara s'adresse à la nation ce soir.
Au Niger, à quelques jours du second tour de la présidentielle, les avocats de Hama Amadou cherchent encore sa remise en liberté.
Nous avons invoqué des raisons médicales. Nous avons également rappelé la définition qui allait donner à la garantie de représentation. Est-ce que Hama réunit les conditions telles qu'elles ont été définies par la loi ?
L'Union européenne suspend son aide directe au Burundi.
Soupçon de blanchiment d'argent à grande échelle au Burkina, nous ferons le point tout à l'heure avec notre correspondant sur place.
Ankara endeuillé par un sanglant attentat, le gouvernement pointe du doigt les rebelles kurdes.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal présenté par Chérubin Gabin d'Orsil et Anastasie Tudiech.
En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres extraordinaire au lendemain des attaques de Grand Bassam. Idriss Fall a joint François-Dominique Delafosse. Il est conseiller en communication du ministre ivoirien de l'Intérieur.
Au plan sécuritaire, il y a une déclaration du ministre de l'Intérieur là, qui a été faite tout à l'heure en conseil des ministres. Au sein de ce conseil, nous avons eu plusieurs mesures qui ont été prises. D'abord, le président a décrété 3 heures de deuil national. Ce soir, à partir de 20h, le journaliste s'adressera à la nation. Donc, on attend maintenant le message du chef de l'État ce soir. Donc, les mesures sécuritaires sont là. On a bouclé tous les périmètres qui sont déjà atteints, que ce soit les hôtels, les restaurants. Nous avons aussi bouclé tout ce qui est identification. En ce qui concerne aussi l'identité de ceux qui ont eu à commettre les attaques, le procureur de la République se charge de pouvoir décliner leurs identités, mais ça va, tout est revenu au calme.
Et on avait fait état d'assaillants qui seraient en cavale.
Nous n'avons pas ces informations. Ce que nous avons comme information et qui a été rectifié, c'est bien évidemment qu'on a eu au total de ces attaques qui ont occasionné la mort de 7 civils, 33 personnes sont blessées et 3 terroristes au lieu de 2 terroristes, comme il était annoncé. Et 3 membres des forces spéciales aussi sont décédés. Donc en ce qui concerne les assaillants qui ont fui, non, nous n'avons pas ces informations.
François-Dominique Delafosse, conseiller en communication du ministre ivoirien de l'Intérieur.
Quelle est la situation actuelle à Grand Bassam au lendemain de cette attaque meurtrière? Nous avons sur place notre correspondant Julien Anaki.
Il faut dire que la peur est encore dans le ventre des populations de Grand Bassam. Là, je me trouve même au sein de l'Étoile du Sud, dans les environs de la plage où l'attaque est partie hier. Et je vous assure qu'en dehors des forces de l'ordre et de quelques employés des hôtels avoisinants, on ne voit personne. Personne d'autre, en dehors de quelques journalistes étrangers qui sont tellement venus pour essayer de s'informer. La ville de Grand Bassam, elle est très, 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 très calme. Les gens sont toujours en train de s'interroger. C'est toujours la tristesse et la désolation chez les populations de Grand Bassam et en Côte d'Ivoire, de façon générale.
Dites-nous, quelle est l'importance de cette cible que représente Grand Bassam?
Grand Bassam, c'est une ville touristique qui dernièrement a été classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est également la première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est une ville avec des bâtisses touristiques, avec une plage qui se tend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est ici aussi que beaucoup de restaurateurs européens sont venus s'installer. Et c'est en ce lieu que chaque dimanche ou chaque samedi, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire viennent également pour essayer d'avoir du calme après une semaine de travail. Donc il faut dire que Grand Bassam, c'est tous les week-ends, c'est tous les Européens, tous les immigrés, c'est la crème de l'intelligentsia ivoirienne elle-même aussi qui se joint à tout ce groupe-là ici tous les dimanches. Et donc Grand Bassam, c'est un symbole fort pour les Ivoiriens en termes de distraction, en termes de plage, mais c'est également un symbole fort pour tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire pour travailler, qui se trouvent à Abidjan. C'est un endroit de repos, un endroit de calme.
Merci Julien. Julien Anaki, correspondant de VOA Afrique en Côte d'Ivoire.
Et réaction sur la scène internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa solidarité avec la Côte d'Ivoire et les pays de la région dans leur lutte contre le terrorisme. À Washington, ici aux États-Unis, le président Barack Obama a déclaré « Nous devrons continuer à renforcer nos partenariats de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons vu hier une attaque en Côte d'Ivoire. de l'Afrique de l'Ouest à l'Afghanistan. Ces pays combattent le terrorisme, ils ont besoin de notre aide.
C'est ce qu'a dit Barack Obama lors d'une conférence aujourd'hui au Département d'État américain. L'attaque djihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam remet sur le tapis la question sécuritaire pour les pays ouest-africains. Jacques Aristide s'est entretenu avec le docteur Bakary Sambé, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique au sein du Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies, c'est au Sénégal.
Premièrement, la question de la porosité des frontières maliennes, que j'ai définie comme étant un ventre mou qui risque de poser des problèmes de stabilité à tous les pays qui lui sont voisins. La deuxième chose, c'est les défaillances en termes d'approche régionale et interrégionale pour ce qui est de l'extrémisme violent qui, à mon sens, ne peut être vaincu que par un seul État. La troisième chose, c'est que nos États sont dans une forme d'impréparation par rapport à la transnationalité des acteurs qui, depuis des années, est en train de challenger le principe même de souveraineté des États. Du moment que le problème n'est pas résolu au Mali, on a vu son extension récemment au Burkina Faso, d'abord avec les événements qui sont passés à la gendarmerie de Houssi, avant qu'on en arrive aux attentats de Splendide, on a vu aussi aujourd'hui, même pas une semaine après qu'on ait aperçu et repoussé les éléments djihadistes en provenance de la Côte d'Ivoire, qui ont été repoussés à la frontière malienne et qui s'attaquaient aussi à une gendarmerie. Donc la question du djihadisme est devenue préoccupante pour tous nos pays, et qu'il faudrait s'y atteler de manière collective, mais aussi de manière régionale, voire interrégionale.
Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies à Dakar.
La cour d'appel de Niamey a examiné ce matin une demande de mise en liberté provisoire pour Hama Amadou, candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Il est incarcéré à 180 km de la capitale dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. Entre autres arguments avancés par ses avocats pour demander cette mise en liberté, son état de santé. La cour se prononcera le 28 mars. Écoutons Maître Souley Oumarou à la sortie de l'audience ce matin.
Le juge a décidé de mettre cette affaire en délibéré au 28 mars, du fait qu'il n'y a pas d'autre audience de délibéré que celle du 28 mars. Vous avez bien suivi les arguments qu'on a invoqués. Nous avons invoqué des raisons médicales, ça vous l'avez vous-même répété. Nous avons également rappelé la définition qui a été donnée à la garantie de représentation. Est-ce que Hama réunit les conditions telles qu'elles ont été définies par la loi? Un point, un trait. Et troisièmement, nous avons même dit, même si c'est une liberté sous caution, qui est accordée même aux étrangers qui peuvent justement fuir après la liberté provisoire, on veut les lui accorder. Nous attendons de voir, au vu de ces trois arguments, je suis convaincu que l'un de ces arguments va prospérer. Nous attendons de voir le verdict le 28 mars, inchallah.
Maître Souley Oumarou, l'un des avocats de Hama Amadou, qui répondait aux questions de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
L'Union européenne a officiellement suspendu son aide directe au Burundi en réponse aux violences qui secouent ce pays et pour pousser les autorités burundaises au dialogue avec l'opposition. Nani Talani.
La décision a été prise aujourd'hui par les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lors de leur réunion mensuelle à Bruxelles. Premier donateur du Burundi avec une aide globale de quelque 430 millions d'euros pour la période 2015-2020, l'Union européenne a suspendu ses appuis directs, y compris les appuis budgétaires, pour obliger les parties burundaises à trouver une issue à la crise. Bruxelles appelle notamment à la reprise du dialogue inter-burundais conduit sous la médiation de la communauté est-africaine. Toutefois, l'Union européenne maintient intégralement son aide humanitaire. Désormais, Bruxelles financera juste des projets visant à assurer l'accès de la population aux services de base.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chefs de la diplomatie européenne ont affirmé aujourd'hui à Bruxelles qu'ils resteraient fermes face à Moscou, tant sur les sanctions décrétées en raison du conflit en Ukraine que sur le soutien russe au régime de Bachar al-Assad en Syrie. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui au ministère de la Défense d'entamer demain le processus de retrait de la majeure partie des forces russes de Syrie.
Attentat meurtrier hier en Turquie, la police a arrêté 4 suspects aujourd'hui dans la ville de Sanliurfa. L'attentat à la voiture piégée a fait au moins 36 morts. Et il n'a pas été revendiqué, mais les autorités turques ont pointé du doigt les rebelles kurdes. Maëlys Hegel.
Les États-Unis ont fermement condamné cette attaque et réaffirmé leur partenariat solide avec la Turquie dans le combat contre le terrorisme, selon le porte-parole du département d'État, John Kirby. L'ambassade des États-Unis en Turquie avait alerté vendredi ses ressortissants sur une possible attaque terroriste visant des bâtiments du gouvernement turc. Cet attentat à la voiture piégée est le deuxième en moins d'un mois à Ankara. La police a arrêté 4 suspects grâce à une information indiquant que le véhicule utilisé avait été acheté dans le sud-est de la ville. Le mode opératoire rappelle celui de l'attentat perpétré le 17 février, revendiqué par un groupe kurde dissident du PKK, les Faucons de la Liberté. Quelques heures après cette attaque, une dizaine de chasseurs-bombardiers ont pilonné les bases des rebelles kurdes dans les montagnes de l'extrême nord irakien. Depuis l'été dernier, de violents combats ont repris entre les forces de sécurité et le PKK dans de nombreuses villes du sud-est, peuplées en majorité de Kurdes.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et les autres responsables de son régime doivent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. C'est l'avis d'un expert onusien des droits de l'homme, Marzuki Darusman, qui s'adressait au Conseil des droits de l'homme. Et il a suggéré que 3 experts se penchent sur les aspects juridiques de cette question. Il a fait état de camps de détention, de persécutions religieuses, d'une organisation du travail sur le modèle de l'esclavage en Corée du Nord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est tout de suite avec la Minute Éco présentée par Arzuma Compaoré.
L'affichage extérieur africain prend de l'ampleur. Le groupe congolais Sapro accède à plus de 6000 panneaux dans 16 pays africains en s'appropriant le capital de Global Outdoor Systems. De Nairobi à Dakar, en passant par Lagos et Douala, le PDG Paul Obambi a surpris tout le monde face à la douzaine de compétiteurs qui postulaient pour la reprise auprès du capital investisseur RMB Corvest de la totalité du capital de Global Outdoor Systems, géant de l'affichage extérieur basé en Afrique du Sud. 12 millions de dollars d'investissement au Mali d'ici 2020 par la British American Tobacco. Un protocole d'accord entre cette dernière et la Société nationale de tabac et allumettes du Mali, Sonatam, prévoit la production de Dunhill, l'une des premières marques du cigarettier britannique, et par la même occasion une progression de 1,7 à 3,2 milliards de cigarettes chaque année. Le directeur général de la Sonatam, Issouf Traoré, estime que cet investissement majeur devrait s'accompagner de 200 embauches permanentes. Le groupe marocain OCP veut multiplier par 5 ses ventes au sud du Sahara d'ici à 2025. En effet, le géant marocain des phosphates à travers son directeur adjoint, Tariq Choho, veut encourager l'usage des engrais au sud du Sahara pour accroître la production agricole. Mais pour gagner son pari, OCP devra généraliser l'usage des engrais en Afrique et en particulier sur les exploitations familiales.
C'était la Minute Éco. Merci Arzuma Compaoré.
Notre page sport, nous avons en studio Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi, bonsoir Anastasie.
Bonsoir Eric.
Alors commençons avec le football. La FIFA suspend 3 anciens responsables du football sud-africain.
5 ans de suspension contre Leslie Sidibé, 2 ans contre Steve Goddard et Adil Karls pour une affaire de match amicaux truqué en 2010. La décision est tombée aujourd'hui, Gabi.
En Champions League, Bayern contre la Juve. Pour Müller, il faut marquer vite.
C'est le souhait de Thomas Müller. Le Bayern Munich doit prendre à la gorge la Juventus et faire sauter rapidement le verrou défensif italien pour valider son billet en quart de finale le mercredi à l'Allianz Arena. À Turin, Müller avait ouvert la marque et Arjen Robben doublait la mise lors d'une première heure de jeu dominée par le Bayern avant de céder 2 fois pour rentrer finalement avec un match nul 2 partout.
À Manchester City, Yaya Touré opérationnel contre Kiev.
Exactement, Anastasie, le voyant a été jugé apte à disputer le 8e de finale retour contre le Dynamo Kiev demain à l'Etihad Stadium.
Et qui pour renforcer le Paris Saint-Germain?
Le mystère Ibrahimovic en fin de contrat en juin, Lucas Cavani, la quête d'une nouvelle star vont constituer le fil des prochaines semaines, Anastasie. Les interrogations ne manquent pas concernant les contours du futur mercato du PSG, sacré champion de France dimanche pour la 6e fois de son histoire, Gabi.
Autre interrogation, dopage. Nadal va porter plainte contre une ex-ministre française des sports.
L'ancien numéro 1 mondial, Rafael Nadal, a confirmé hier qu'il allait porter plainte pour diffamation contre Roselyne Bachelot.
Et c'est tout.
Ouais, en basket.
Non, on n'aura pas le temps pour le basket. Merci Eric.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour et notre première escale, c'est le Mali, Gabi.
Pour dire que l'Aménokal, c'est le chef spirituel des Touaregs de l'importante tribu des Ifohas, appelle l'État malien à engager des discussions avec les djihadistes maliens. Alors, selon lui, les Américains ont été obligés de parler discrètement avec les talibans afghans. Les Algériens ont discuté avec ce qu'ils appellent leurs islamistes. Ils demandent donc aux autorités de Bamako d'engager des discussions avec les djihadistes maliens. Il se fait à l'adjoint à Kidal, Mohamed Ag Intala, l'Aménokal des Touaregs.
Il faut qu'on discute pour vraiment garder toujours l'espoir d'avoir la paix dans les sous-régions, c'est particulièrement le Mali. Il faut qu'on l'approche, on va discuter avec eux. Négocier, ce n'est pas une faiblesse.
On va négocier avec qui?
Avec les djihadistes, ils sont prêts à négocier.
Par exemple, Yad Agali est prêt à négocier?
Moi, je ne sais rien de Yad Agali, je le prends, c'est une seule personne qu'il a à la tête de ce qu'on appelle un sardine aujourd'hui. Pour moi, être un sardine, ce qui n'a pas à déstabiliser les pays, sardine a trouvé une formule avec tout le monde.
Et discuter autour de quoi?
D'abord, c'est la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Les premières discussions, les premiers mots, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est là-bas qu'ils vont nous dire ce qu'ils veulent.
Et quand ils ont occupé le nord du Mali, ils ont coupé des mains, ils ont égorgé des gens?
Non, moi je suis au nord à l'époque, je n'ai pas vu, mais à l'époque, je ne sais pas si c'est le même. C'est pas la même chose que maintenant.
Est-ce que vous avez été en contact avec Yad Agali?
Personne qui est en contact avec Yad, même ces éléments, ils ne sont même pas là. Mais je sais que si on a engagé le système, le processus de dialogue, tôt ou tard on va connaître là où il est, parce qu'il ne peut pas passer toute sa vie à se cacher.
Mais est-ce qu'on peut discuter avec des radicaux qui veulent appliquer la charia dans un état laïque comme le Mali?
Non, tu sais, le problème de charia, ce n'est pas les djihadistes qui ont amené charia ici. Charia, c'est une loi de Dieu. Nous, on est en train de l'appliquer avant que Ben Laden même est né dans le monde, à pratiquer l'islam avant lui. Mais on n'a jamais fait des actes de terrorisme. C'est pas l'islam qu'on connaît.
Mais pourtant, ils étaient présents dans le nord, Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Bon, c'est une grande partie, c'est la politique. L'essentiel seulement, c'est qu'on ouvre un dialogue, en tout cas au Mali. Maintenant, si on a négocié avec les djihadistes maliens, c'est là-bas que la négociation va aller jusqu'au fond.
Mais que faudra-t-il faire avec les autres djihadistes qui viennent de l'Algérie, qui viennent de la Mauritanie?
Et... Non, tu ne peux pas compter même, ils sont trop nombreux. Ils viennent de la France, ils viennent de l'Amérique. Pourquoi tu as laissé l'Amérique? Ils viennent de l'Amérique, ils sont là, ils sont un peu partout. Maintenant, ils vont retourner ou bien on va les convaincre, ils vont revenir à la raison et puis ils vont retourner dans leur pays, leur spectif. Ça, c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi.
On écoutait Mohamed Ag Intala, le chef spirituel des Touaregs.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Plus que 6 jours pour le second tour de la présidentielle au Niger, alors que le président sortant Issoufou Mahamadou continue sa campagne à l'intérieur du pays, les partisans de son adversaire, Hama Amadou, emprisonné dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés, eux suivent le mot d'ordre de boycott lancé par une coalition de partis d'opposition. Ils estiment en effet que les conditions d'un scrutin juste et crédible ne sont pas réunies. On fait le point tout de suite avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Le Niger se dirige-t-il vers une élection sans crédibilité? C'est en tout cas ce que pense l'intersyndical des travailleurs du pays. Pour cela, le regroupement des principales centrales syndicales appelle le chef de l'État sortant à un dialogue avec l'opposition. Jibrila Idrissa est le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger.
L'intersyndical des travailleurs du Niger, ITN, lance un appel pressant au président de la République, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, d'engager instamment un dialogue politique direct avec l'opposition afin d'éviter à notre pays un scrutin présidentiel sans crédibilité.
Dans le camp du président sortant, déjà cette idée d'un dialogue avait, avant même d'être émise, été écartée par le secrétaire général de sa formation politique, Hassoumi Massaoudou.
Nous, on ne participe à aucune négociation, il y a un agenda démocratique, il y a un tempo qui a été électoral, qui a été défini, nous le respecterons. Nous irons aux élections le 20 mars avec ou sans eux. Il n'y a aucune crise politique et ils n'ont pas de perspective autre que soit d'accepter le fait démocratique et à partir de ce moment ils respectent le peuple nigérien et son engagement démocratique qui a été prouvé le 21 février, soit alors de s'enliser dans les sentiers sur lesquels ils étaient lancés depuis longtemps dans une perspective insurrectionnelle et putschiste. Et là aussi, nous les attendons.
La tenue de ce scrutin le 20 mars avec ou sans l'opposition, c'est aussi la logique de la Commission électorale nationale indépendante tel que réaffirmé par son président Boubé Ibrahim.
Ces élections auront bel et bien lieu le 20 prochain. Nous avons des délais constitutionnels à respecter, donc ce n'est pas le retrait d'un candidat qui va nous empêcher de tenir ces élections le 20. Nous sommes déterminés à organiser ces élections à la date prévue, conformément à la Constitution et les lois électorales.
Pourtant, l'opposition politique maintient aussi son mot d'ordre de boycott actif du processus électoral dans son ensemble. Ousseyni Salatou, un des porte-parole.
Je l'affirme de manière claire et nette, et Mamadou et la COPA ne battront pas campagne, notre suspension continue. Et nous avons invité et nous invitons nos militants et tous les démocrates sincères à ne pas battre campagne, à ne pas sortir le 20 mars pour aller voter.
Ainsi se présente le paysage politique nigérien à une semaine d'un scrutin des plus inédits au monde. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Dossier spécial, le cauchemar des migrants africains vers l'Europe. Ils sont des centaines de milliers qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie.
We moved yesterday to Italy. What happened in the sea was this.
On est parti hier pour l'Italie. Ce qui s'est passé quand on est parti, on ne savait pas que le bateau avait des fuites. Le bateau était en train de couler. On a appelé à l'aide en Libye. On a attendu 30 minutes à une heure. Les secours sont arrivés. On remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. N'eussent été les secours, nous serions tous morts.
Retrouvez notre page spéciale consacrée à ce dossier sur voaafrique.com et sur Facebook.
On met le cap sur le Burkina. Selon un rapport de la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières, des soupçons de blanchiment d'argent d'une valeur de 86 milliards de francs CFA ont été constatés en 2015 au Burkina. Les rapports d'enquête, au nombre de 27, ont été soumis au procureur du Faso. Zoumana Wonogo nous en dit plus.
À la sortie du dernier conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, a fait cas de blanchiment d'argent s'élevant à 86 milliards. En situant le rapport d'enquête à l'année 2015, la période de la transition, certains Burkinabés ont commencé à regarder celle-ci d'un autre œil. On les écoute.
Je m'appelle Hervé Zongo. En 2015, c'est la transition qui était aux commandes. Donc nous, on fait vraiment le parallèle en même temps. Vraiment, ça m'a découragé parce que ça nous donne une autre image de la transition. Nous avons cru que c'est des gens qui étaient de bonne foi, qui sont venus pour vraiment assainir les lieux. Mais si on retrouve jusqu'à 86 milliards de francs CFA qui sont vraiment blanchis dans notre pays comme ça, là, vraiment, on se demande si on n'a pas changé notre chien contre un chat, quoi, en cherchant les blesses qu'on paurait et sa suite parce qu'ils géraient mal le pays.
Monsieur Tapsoba Hippolyte, le gouvernement nous a dit que c'est au cours de l'année 2015. Maintenant, nous, on attend de savoir c'est qui est mêlé. Si il s'avère que c'est les autorités de la transition qui l'ont fait, normalement, tout un bon citoyen doit être découragé.
Pour en avoir le cœur net sur les tenants et aboutissants de cette affaire, nous avons rencontré Bruno Kéry, le chargé du plaidoyer et du lobbying au RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption.
Les 86 milliards, ce n'est pas seulement sous la période de la transition, mais c'est toute la période couverte par l'activité de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, c'est-à-dire 2009 jusqu'au 31 décembre 2015. Peut-être que dans cette part, la période de la transition occupe une part assez importante, mais il faut comprendre que ça concerne toute la période qui va de 2009 au 31 décembre 2015.
À la CGTB, Confédération Générale du Travail du Burkina, on suit cette affaire de près, avec l'espoir que les fonds seront recouvrés au bénéfice de la nation. On écoute le secrétaire général adjoint CGTB. Il s'appelle Norbert Wangré.
Je dois dire qu'on n'a pas été vraiment surpris quand on sait justement tous les pillages dont les ressources publiques ont souffert depuis les régimes Compaoré et jusqu'à la transition. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une forte somme. Et on se dit que si cette somme-là est récupérée, ben, ça fait quelque chose par rapport aux attentes nombreuses des populations en général et des travailleurs en particulier. C'est une aubaine si effectivement tout est mis en œuvre pour clarifier la situation, pour identifier les auteurs et puis effectivement travailler à recouvrer ces milliards.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, la publication d'un livre d'un ancien ministre en prison a relancé le débat houleux dans le pays. D'après l'auteur, qui est appuyé par quelques hommes politiques et des militants des droits de l'homme, le gouvernement utilise le prétexte de la lutte contre la corruption pour écarter de potentiels concurrents au président Paul Biya. Le point avec Lionel Gaïma.
Dans son livre intitulé « Mensonges d'État » publié le 7 mars, Olanguena Aono affirme que les autres anciennes personnalités détenues et lui sont des prisonniers de conscience. D'autres prisonniers ont publié dans les journaux locaux des lettres affirmant que leur arrestation et leur longue détention sont politiquement motivées. Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement, a dû tenir une conférence de presse jeudi dernier pour leur répondre.
De quelle persécution politique s'agirait-il donc? Des concurrents politiques? Le président Paul Biya en a toujours eu, et ceci à profusion. Peut-on nous dire lequel de ces challengers a été un seul instant inquiété ou privé de sa liberté du simple fait d'avoir brigué la magistrature suprême face au président Paul Biya?
Issa Chiroma Bakari a même accusé les prisonniers en question de complot pour défier l'autorité d'État. Olanguena Aono est en train de purger 20 ans de prison. En 2008, il a été arrêté et reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. 2008, c'est aussi l'année où Paul Biya a changé la constitution pour rester au pouvoir. Les journaux, à l'époque, avaient rapporté qu'Aono complotait pour renverser Biya. Son avocat, maître Andrew Litumbe, apporte un démenti formel.
Paul Biya is like, I cannot even tempt him a dictator. He's a super dictator.
Paul Biya est comme, je ne peux même pas l'appeler dictateur, il est super dictateur. L'année dernière, le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, a révélé que 4 millions de dollars ont été récupérés sans donner des détails. Le gouvernement avançait le chiffre de 152 millions de dollars qui avaient été détournés. Pour le gouvernement, la lenteur de la justice s'explique par le fait qu'il est difficile de retrouver l'argent détourné vers les banques à l'étranger, ce qui, a-t-il dit, rend les enquêtes longues et compliquées. Pour Robert Mbile, militant de droits de l'homme, seulement 15 anciens responsables parmi tous ceux arrêtés depuis 2008 ont été jusqu'ici inculpés. C'est dans des rares pays comme le Cameroun que vous trouvez un président chef des armées, de la justice, du gouvernement et de tout. Ainsi, il est super président. Il nomme les juges, il est même le seigneur et du conseil constitutionnel. Biya ne prend soin que de son fauteuil et rien d'autre. L'intérêt du peuple ne signifie rien pour lui.
It's nothing to him.
Le mandat de Paul Biya se termine en 2018. Il règne sur le pays depuis 1982 et ses partisans ont déjà lancé une campagne d'appel pour que l'homme fort du Cameroun, aujourd'hui âgé de 83 ans, organise des élections anticipées et s'y représente pour rester au pouvoir.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. On remercie Joselle Morissin qui assurait la mise en onde ce soir, assistée de Justin Thwaite à la console. Présentation, Anastasie Tudiech et Gabi Dorcy.
Ainsi va le monde, Gabi. On maintient la conversation sur Facebook où nous vous attendons pour partager avec vous vos impressions, vos photos, vos questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24. Et il y a
merci,
une bonne nouvelle.
Merci à tous nos amis Facebook. Nous avons atteint 1 million
nous
de j'aime.
Nous sommes millionnaires en j'aime grâce à vous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.